Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, sans doute avez-vous remarqué que l'épître d'aujourd'hui, l'épître de ce dimanche, fait suite à celui de dimanche dernier. Nous restons en effet dans l'épître de saint Paul aux Romains, et d'ailleurs, nous en sommes toujours, comme dimanche dernier, au 6e chapitre de cette épître.
On peut dire que cette épître s'oppose d'une manière frontale au naturalisme qui est la grande plaie de nos sociétés, modernes, qui met notre monde en crise. Vous savez que ce naturalisme dénoncé si souvent par les souverains pontifes avant le Concile Vatican II consiste
en négation de la grâce et plus profondément,
ce sont ceux qui nient un but qui est surnaturel pour voir Dieu face à face. Et vraiment, ces épîtres de saint Paul semblent avoir été écrites pour notre temps, surtout ces épîtres aux Romains. D'ailleurs, je vous invite à chercher à mieux approfondir ces épîtres si plein d'enseignements, sur de dimanche en dimanche. L'Église nous en livre quelques extraits, mais c'est fort peu par rapport à tout ce qu'a écrit saint Paul et qui est si enrichissante. Mais par exemple, les commentaires de Don de Latte qui sont tout à fait accessibles pour comprendre ces épîtres de saint Paul, notamment cette belle épître aux Romains. Alors justement, pour aider à comprendre l'épître de titre du dimanche, voyons rapidement
ce que saint Paul nous enseigne dans cette belle épître. Alors il commence après un petit prologue où il explique aux habitants de Rome pourquoi
chapitre. Et dans les chapitres suivants, chapitres 2 à 4, saint
Paul montre que cette justification par la foi en Jésus-Christ est absolument nécessaire, justification par la grâce. Il commence en montrant la déchéance dans laquelle sont tombés les païens, puis les juifs, parce qu'ils n'avaient pas cette grâce, ou ne s'y sont pas conformés. Les païens, par leur idolâtrie, ont mérité d'être livrés à toutes leurs passions, les passions les plus honteuses. Dans cette partie-là de l'épître, c'est toujours le premier chapitre, semble avoir été écrite pour notre temps, tellement les vices d'aujourd'hui semblent être les mêmes qu'au temps de l'Empire romain. Ensuite, saint Paul montre que les Juifs, par la violation de la loi, ont mérité la colère de Dieu. Bref, tous ont besoin de la justification par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ en adhérant à lui. Il le montre ensuite en parlant d'Abraham. Et les chapitres 5 à 8 nous montrent les fruits merveilleux de cette justification, les fruits merveilleux de la grâce. D'abord, la paix avec Dieu. Et saint Paul a cette parole si belle. Si notre Seigneur Jésus-Christ s'est livré à la mort pour nous, alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions dans le péché, touchés par le péché originel, fils de la colère, bien, combien plus maintenant que nous avons été justifiés par la grâce, bien, notre Seigneur ne nous sauvera-t-il pas? Notre Seigneur est mort pour nous alors que nous étions ses ennemis. Combien plus maintenant que nous sommes amis de Dieu, unis à notre Seigneur Jésus-Christ, membres de Jésus-Christ, combien plus pouvons-nous faire confiance en lui, confiance en la puissance de la grâce? Parce que si le premier Adam, au début de la création, par sa désobéissance, a entraîné pour le monde entier, pour tous ses descendants, le péché, et avec le péché, la mort. Combien plus notre Seigneur Jésus-Christ, par son obéissance à son Père, en mourant sur la croix, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, bien combien plus notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, bien ne nous sauvera-t-il pas? Par cette obéissance, ne donnera-t-il pas la réconciliation avec Dieu et puis la vie éternelle? Ensuite, justement, dans ce chapitre 6, donc c'est l'épître d'aujourd'hui, puis le dimanche dernier, saint Paul nous montre que cette grâce qui nous est donnée par Dieu doit germer, doit fructifier en une vraie sainteté de vie. Il emploie pour cela deux images. Celle de dimanche dernier, c'est que nous sommes par le baptême morts au péché. Par le baptême, nous avons été unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été unis d'une manière toute spirituelle, bien sûr, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour ressusciter avec lui pour une vie nouvelle, une vie toute pleine de bonnes œuvres. Et puis, l'épître d'aujourd'hui nous a montré que nous avons été comme libérés du péché. Le péché était une véritable servitude qui pesait sur nous. Nous sommes libérés du péché et maintenant nous sommes libres pour nous servir Dieu de tout notre cœur par une véritable justice, justice, comme le dit saint Paul, dont la destinée, dont la fin est la vie éternelle. Et dans le chapitre suivant, le chapitre 7e, il nous montre que nous sommes non seulement libérés du péché, mais libérés également de la servitude de la loi ancienne, de la loi juive qui a fait place, donc l'Ancien Testament a fait place au Nouveau Testament, tout vivifié par la grâce et avec amour et avec joie que nous servons notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chapitre 8, qui est certainement le centre, le sommet de cet épître aux Romains, nous parle de l'inhabitation du Saint-Esprit en nous pour mener une vie toute spirituelle. Nous ne savons pas comment prier par nos simples forces, alors l'Esprit Saint vient en nous. Il nous enseigne ces paroles ineffables qui nous font appeler Dieu du doux nom de Père. Il nous fait crier « Abba, Père ». Il nous montre comment vraiment prier. Il nous montre comment vraiment prier et comment vraiment agir dans toute notre vie. Puisque, en effet, nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et nous devons agir, bien sûr, en enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous le permet, pour devenir ensuite héritier du ciel. De même qu'un fils hérite des biens de son père, et de même nous-mêmes, si nous vivons véritablement en enfant de Dieu, nous hériterons de cette richesse de Dieu, qui est la vie éternelle, Dieu contemplé face à face, nous participerons au bonheur même de Dieu. Et ainsi tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un passage magnifique que je vous invite à lire, ce 8e chapitre de l'épître de saint Paul aux Romains. Et ensuite, saint Paul parle rapidement, dans les 3 chapitres suivants, de la situation des Juifs, mais qui se sont détournés de Dieu, mais qui, à la fin du temps, se convertiront. Et la deuxième partie, nous la verrons un peu plus en détail. Saint Paul nous explique comment nous devons vivre pour Dieu. C'est quoi faire servir nos membres au service de Dieu, comme nous venons de le lire dans l'épître d'aujourd'hui. Enfin, dans l'épilogue, saint Paul nous montre que c'est vraiment Dieu qui nous donne la grâce de nous conformer par la fidélité à sa vérité. Bien, détaillant justement ce 6e chapitre au point de vue de chacun d'entre nous, au point de vue individuel, si vous avez bien écouté l'épître, vous voyez que saint Paul oppose le péché à la grâce. Il montre qu'à cette origine, différente origine de nos actes, grâce ou péché, la grâce nous vient de notre Seigneur, le péché nous avons hérité d'Adam, bien, doit nécessairement conduire à des actes tout différents. Le péché nous pousse à avoir des actes d'injustice et d'impureté, alors qu'au contraire, la grâce véritable doit fructifier en actes de justice et de sainteté. Et la fin, elle, est toute différente. Si les actes qui viennent du péché, qui germent en actes d'injustice, terminent par la confusion et la mort éternelle, au contraire, tous les actes qui viennent de la grâce et qui germent en justice terminent par la sainteté et la vie éternelle. Alors comment vivre en enfant de Dieu? Comment faire servir nos membres pour la sainteté? Comment atteindre la vie éternelle? Saint Paul, justement, comme nous l'avons dit, nous l'explique dans la deuxième partie de cet épître aux Romains, chapitre 12 à 15. Il nous parle des devoirs des chrétiens. Avant tout, nous devons accomplir nos devoirs envers Dieu. Toute notre vie chrétienne est tournée vers Dieu, puisque tout cela nous vient de la grâce, qui nous rend enfants de Dieu. Nous devons agir en enfants de Dieu. Nous sommes tous tournés vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers le bon Dieu. Saint Paul dit ailleurs, dans une autre épître, que notre conversation, et ce mot est très profond, c'est-à-dire que nos actes tout entiers, que notre vie tout entière soit tournée non plus vers les choses de la terre, mais vers le ciel. Nous vivons en fait comme si nous étions déjà au ciel d'une certaine manière, en conversation avec les anges. Que nous faites de vos membres, faites de votre corps tout entier des hosties, donc des sacrifices agréables à Dieu. Et comment ? Saint Paul le détaille en disant que nous devons mettre tous nos talents, tous les dons que nous avons reçus de Dieu au service de nos frères, au service de la Sainte Église, puisque nous sommes tous membres d'un seul corps, qui est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Église, nous sommes tous membres de l'Église, donc membres de notre Seigneur. Nous devons chercher à servir notre prochain. Nous avons en effet tous reçu des talents différents. Certains ont plus de facilité pour parler, bien qu'ils parlent d'une manière vertueuse. D'autres ont plus de talents pour commander, bien qu'ils mènent les autres vers Dieu, et ainsi de suite. Nous avons tous des capacités, des vertus, des tempéraments différents. Et tout cela, nous devons le faire servir pour l'amour de notre prochain. Et ensuite, il détaille la liste des devoirs des chrétiens en général. D'abord, montrer
une charité véritable, non pas une charité simplement en parole, pour simplement dire un prochain problème, mais une charité effective, une charité efficace, et qui se demande d'abord par le zèle, ne pas se contenter, on peut dire du minimum, simplement venir à la messe le dimanche, simplement ne pas trop offenser le prochain. Non. Avoir le zèle, c'est-à-dire faire tout le bien que l'on peut. Si vraiment nous aimons Dieu, nous allons vraiment chercher à l'aimer de tout notre cœur. Pas simplement nous lui réserver quelques minutes au début de la journée pour quelques prières et à la fin de la journée pour quelques prières. Non, c'est notre vie toute entière. Nous allons tourner vers l'amour de Dieu, vers l'amour de notre prochain. Et comment se montre ce zèle? C'est surtout par la patience. En effet, dans le rapport avec nos frères, forcément, nous avons des tempéraments différents. Nous avons tous des défauts. Bien. Si nous avons vraiment notre prochain, nous saurons supporter avec une véritable patience, avec le sourire, sans être acer, sans aigrir en voyant les défauts de notre prochain. Au contraire, quand nous voyons le mal dans notre prochain, plutôt que de nous aigrir, plutôt que d'avoir un jugement de condamnation, nous devons avoir un jugement de commisération. Si on aime vraiment notre prochain, quand nous voyons qu'il a certains défauts, même quand il n'est pas aimable envers nous, si nous l'aimons vraiment, ben nous aurons compassion pour lui. Bien sûr, nous voulons qu'il se corrige, mais non pas tellement pour éviter nous-mêmes d'être gênés par les défauts de notre prochain, mais pour notre prochain lui-même, parce que ses défauts lui font mal à son âme, à lui. Donc, avoir une belle compassion, une compassion pour notre prochain, c'est peut-être le signe le plus éminent. La charité. Et ça peut terminer par la paix que nous devons avoir envers tous. Tout cela, ce sont des choses très concrètes. On va appliquer. Et ça peut terminer enfin par l'obéissance. L'obéissance même au pouvoir civil. Et cela aussi est vraiment d'actualité parce que, au temps de Saint Paul, les empereurs romains étaient tout aussi corrompus que le chef d'État actuel. Et pourtant, nous devons réellement aimer notre patrie, vraiment être obéissant, du moins à tout ce qui évidemment ne s'oppose pas à la loi de Dieu. Les chrétiens n'ont pas hésité à aller jusqu'aux martyrs pour résister à l'empereur lorsqu'il s'agissait des choses de Dieu, lorsque l'empereur leur commandait quelque chose qui était interdite par la loi de Dieu. Bien sûr, on ne peut pas obéir aux lois perverses de notre temps, mais vraiment avoir ce sens de la justice. Dans nos relations professionnelles, sans la justice qui sert véritablement notre pays. Alors, c'est un grand exemple qui touche les gens, qui permet de convertir les âmes en changeant de paix et de justice. Cela est vrai pour les individus, cela est vrai pour chacun d'entre nous, mais cela est vrai aussi pour les sociétés, pour les pays. Si les sociétés se conforment à la foi, à la véritable foi, bien elles vont prospérer, Dieu va les bénir. On voit cela, les auteurs du 19e siècle, les auteurs antilibéraux, qui ont suivi pendant les les recommandations des souverains pontifes, des papes, ont vraiment insisté sur ce fait que même les pays, même les nations, lorsqu'elles se conforment au vu de Dieu, sont bénies par Dieu, alors qu'au contraire, les pays qui désobéissent à Dieu finissent par aller à leur ruine. Par exemple, Monseigneur Laflèche, évêque des Trois-Rivières, un grand auteur anti-libéral, c'est-à-dire tout simplement catholique, qui a vécu au Québec au XIXe siècle, disait, avec cette phrase superbe, « Dans les œuvres de Dieu, il n'y a point de lacune, et rien n'est laissé au hasard. Tout est coordonné, selon l'idée divine d'un plan infiniment sage, qui doit éclater la gloire de Dieu. Dans la manifestation de ses divers attributs, sur toute sa puissance, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa justice. Toute l'histoire des hommes montre en fait l'action de Dieu et sa bonté qui se répand. L'humanité entière concourt à la réalisation de ce plan. Chaque individu, chacun d'entre nous, chaque individu dans la famille, chaque famille dans la nation, chaque nation dans l'humanité a reçu en conséquence une mission spéciale qu'il doit remplir, un but déterminé qui n'est pas atteindre. Dieu, dans les dispositions admirables de sa providence, ne refuse à personne, individu, famille ou nation, les moyens d'atteindre sa fin. Comme aussi, il punit sévèrement l'abus de ses moyens et brise même comme un instrument inutile les peuples et les nations qui n'ont pas compris leur mission ou qui ont refusé d'accomplir leur destinée en se détournant de la route que Dieu leur avait tracé. Vous les gouvernerez avec un sceptre de fer, dit Dieu à son verbe, vous les briserez comme vase d'argile. C'est une vérité élémentaire du catéchisme catholique qu'il est utile de rappeler ici, parce qu'un trop grand nombre de chrétiens ont perdu la vue. Ils s'imaginent qu'une force aveugle préside à tous les événements qui s'accomplissent ici-bas, que les succès de la guerre, la conquête des royaumes, l'agrandissement des empires sont dus, en dernière analyse, à l'habileté des généraux, à la valeur des soldats, ou aux sages combinaisons à la politique des hommes d'État. Ils ne se rappellent plus ce mot sublime de Bossuet, « L'homme s'agite et Dieu le mène ». Voyons, avec l'histoire de France, si on comprend le contraste qu'il y a entre un Saint-Louis, Saint-Louis a vraiment fait servir la puissance de la France, tous les dons que Dieu avait donnés à la France pour la justice, pour faire le bien. Le Saint-Louis n'hésitait pas à servir l'Église par les croisades, puis même à l'intérieur de son royaume, Saint-Louis a envoyé partout des hommes pour recueillir toutes les plaintes que ces sujets pouvaient avoir contre l'exercice du pouvoir, pour les injustices qu'ils pouvaient exercer par les barons, voire même par le pouvoir royal, pour vraiment rendre justice. Et à part que Saint-Louis s'est vraiment conformé au vu de Dieu sur la France, alors la France a été bénie par une véritable paix, des meurtres chrétiennes et même un art merveilleux qu'on songe à toutes les magnifiques cathédrales du temps de Saint-Louis, du temps de la chrétienté, et même dans la moindre, dans beaucoup de petits villages, ces églises si belles, si charmantes, sont cela, l'art chrétien. Fruit et comme bénédiction de la fidélité à la grâce en définitive. Alors qu'au contraire, lorsque certains des successeurs de Saint-Louis se sont détournés de la justice, d'une politique véritablement chrétienne, et la France a finalement dégénéré. On pense par exemple aux alliances que certains rois de France ont fait avec les Turcs, ni de la chrétienté, voire même avec les protestants, contre d'autres royaumes catholiques. Bien, à cause de cela, ils ont été rejetés de Dieu. À cause de cela, Dieu a permis la Révolution française, Dieu a permis qu'il y ait une certaine déchéance de la France parce que ces rois n'ont pas fait servir leurs membres, peut-on dire, leur puissance à la justice, mais bien au contraire à la justice, si vous voulez, rejeter de Dieu. Alors, en conclusion, chers fidèles, pensons à ces paroles de Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand dit qu'on doit méditer sur les dons, sur les talents que Dieu nous a donnés afin de savoir les faire fructifier, afin d'en rendre au jour du jugement, d'en rendre un bon compte à Dieu, de ne pas avoir à trembler parce que nous n'avons pas fait fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce que tu nous as donné? Quel don nous a-t-il donné? Nous a donné à chacun d'entre vous qui est présent la foi, nous a donné la grâce, nous a donné la tradition d'un véritable enseignement catholique. Combien peu aujourd'hui dans le monde ont reçu ce que vous avez reçu de Dieu? Et Saint Paul nous dit que nous devons faire fructifier, que nous devons faire servir et nous rendre à la justice, faire fructifier ces talents que nous avons reçus, comme le demande notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons non pas nous contenter d'une vie médiocre, se contenter d'aller à la messe le dimanche et de prier une fois par jour. Non, nous devons chercher vraiment la sainteté, vraiment en famille, nous rendre service les uns les autres, avoir une véritable charité effective qui sorte en véritables actes concrets, réels, nous pardonner les uns les autres, être plein de patience, plein de joie, amener la paix autour de nous. Et que Notre-Dame nous donne de faire servir, de faire fructifier la grâce en nous, jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à la persévérance finale, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.